Vous avez dû recevoir lors de votre invitation un petit document de fil rouge qui va reprendre l'essentiel des éléments que je souhaitais présenter dans le cadre d'un rapide cadrage, de manière à préciser un petit peu mieux les enjeux et les défis pour les organisations de l'ESS par rapport à ce vaste sujet. Alors pour commencer, je pense qu'il faut impérativement préciser les termes qui sont en jeu ce soir. Alors déjà, la notion d'impact, elle reste toujours polysémique, mais il est clair aujourd'hui qu'il existe un certain consensus sur sa définition et sur les moyens de le mesurer. En tout cas, ce consensus a émergé ces dernières années. Alors, par la définition qu'en donne en 2012 le Conseil supérieur de l'ESS, l'impact social se présente comme l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation, tant sur ses parties prenantes externes, directes mais aussi indirectes, de son territoire donc, qu'internes, mais aussi sur la société en général. Il se traduit entre autres en termes de bien-être individuel, de comportement, d'amélioration des capacités, de pratiques sectorielles, d'innovation sociale, on l'a vu apparaître d'ailleurs dans le nuage de mots tout à l'heure, et on n'a peut-être pas vu apparaître, mais également de décisions publiques. Donc, comme vous le constatez, le terme couvre une série potentiellement quasi infinie d'effets. On parle aussi de conséquences ou même de changements, très souvent, qui sont donc reliés aux actions d'une organisation. Il englobe donc les effets sur l'ensemble des parties prenantes, comme je l'ai précisé, et donc pas uniquement sur les bénéficiaires, même si c'est souvent la partie prenante prioritaire qui est impliquée dans le dispositif. On tient compte d'effets directs, mais aussi d'effets indirects, hein, qui sont provoqués justement par des effets directs, ce qui en complexifie d'ailleurs sa mesure. Et le terme social désigne effectivement ce qui est relatif à la société. Il englobe donc en particulier les impacts économiques, mais ne s'arrête pas à cette seule dimension. Alors, c'est une expression large qui rejoint d'autres notions telles que les externalités, ou encore l'évaluation d'utilité sociale. Alors, signalons tout de même que le terme d'évaluation a une connotation qui est beaucoup plus ouverte que l'appellation de mesure, car ses modalités et les aspects matériels qui sont mobilisés pour l'obtenir sont bien plus larges. En effet, lorsqu'on évalue, on englobe en général des moyens qualitatifs et une grande diversité d'outils, ce qui suppose une action longue et progressive. Alors que, bien évidemment, la mesure, dans son sens strict, s'exprime sous une forme chiffrée et s'appréhende davantage par un acte ponctuel qui sera répété dans le temps. Alors, il est aujourd'hui admis, ça c'est un point important, hein, que les deux termes d'utilité ou d'impact social sont similaires, car il est très difficile d'en faire une distinction. Je pense que ce soir, on en aura l'exemple. Toutefois, certaines spécificités qui sont relatives à leur genèse et à leurs usages peuvent être soulignées. Alors, le terme d'impact social s'inscrit dans une perspective qui est à la fois académique, mais aussi très fortement empirique et de nature internationale. Il a été importé du monde anglo-saxon, du secteur de la philanthropie, et il a été largement repris par le mouvement des entrepreneurs sociaux. Il est marqué par une forte dimension technique et il renvoie à une logique managériale. Le terme d'utilité sociale est assez ancien également, puisqu'apparu en France dans les années 70 dans un domaine juridique pour désigner la spécificité du secteur de l'ESS et des organisations à but non lucratif à justifier d'une exonération fiscale. Il est porté par le milieu associatif et il répond à une logique politique qui est de désigner l'apport des organisations de l'ESS, très clairement. Enfin, son emploi est donc restreint au simple contexte français, puisque le terme d'utilité sociale n'existe pas en anglais. Alors, la popularité croissante de l'impact social, qui semble avoir supplanté le terme d'utilité sociale aujourd'hui, nous invite tout de même, pour démarrer cette réflexion, à nous interroger sur les intérêts croissants qu'il suscite en France et en Europe, et qui le conduit à prendre une place grandissante dans le quotidien des organisations de l'ESS, ce qui est prouvé par votre forte participation ce soir. Alors, compte tenu de la nature complexe et de l'influence des entreprises sociales, la compréhension et la mesure de leur impact constituent une priorité pour toutes les parties prenantes de ces organisations. Alors, au premier chef, les pouvoirs publics, qui sont les principaux bailleurs de fonds de ces structures, et qui doivent faire preuve aujourd'hui de davantage de prudence dans l'attribution de leurs ressources. Et donc, leur soutien financier est de plus en plus légitimé à la référence de l'impact social généré par les structures qu'elles soutiennent. Deuxième partie prenante importante, les financeurs de l'impact investing. Alors, outre les investisseurs socialement responsables qui seront représentés ce soir, il faut ajouter le développement des nouvelles pratiques philanthropiques, mais également les institutions financières traditionnelles qui sont prêtes à investir dans les entreprises sociales avec la possibilité de développer des marchés viables dans des secteurs qui sont spécifiques. Alors, ces organisations, elles doivent déterminer si leur investissement produira effectivement un impact social en plus du rendement financier qui est attendu. Enfin, troisième partie prenante et sans doute essentielle, les entreprises elles-mêmes et les structures de l'ESS au sens large, car la mesure de l'impact social, nous le rappellerons ce soir, peut aider à fixer des objectifs réalistes, à surveiller, mais aussi à améliorer leurs performances, à déterminer la priorité de leurs décisions et bien sûr à accéder aux marchés de capitaux de manière plus concurrentielle. Alors, on le voit bien, les démarches de mesure d'impact, elles apportent des solutions pour répondre aux pressions institutionnelles croissantes. Mais la question du pourquoi évaluer fait rapidement place pour ces organisations à la question du comment le faire. Alors, s'intéresser au processus d'évaluation, c'est poser la question de la rationalité ou de la rationalisation des organisations. Et c'est une logique qui crée des tensions pour ces mêmes structures. En effet, l'impact social va chercher à mesurer la valeur qui est produite par les entreprises et les organisations de l'ESS et à l'exprimer de façon explicite et en mesurer l'ampleur. Donc, l'évaluation va supposer un certain degré de formalisation et va s'appuyer sur un raisonnement formel. Et toutefois, dans le contexte qui nous intéresse, cette pratique de rationalisation n'a absolument rien d'évident. Elle va amener les acteurs à s'interroger sur les étapes et les actions qui génèrent une infinité d'effets, nous l'avons précisé, et de nature qui sont très diverses. Il sera alors nécessaire pour elles de les sélectionner. Ensuite, il conviendra pour elles de passer d'aspects souvent qualitatifs et donc subjectifs, car l'existence des effets et leur intensité est soumise à interprétation. Passer de cet aspect quali à des formes plus quantitatives qui sont jugées objectives et qui supposent l'application de techniques qui sont spécifiques et dont le choix est loin d'être neutre. Donc, le processus de production d'évaluation est un processus rationnel qui, de surcroît, contribue par sa finalité à renforcer la rationalité des organisations. En effet, en disposant d'informations fournies par l'évaluation de l'impact, les acteurs sont en capacité de piloter, de contrôler, mais aussi de rendre compte et d'améliorer la qualité de ce qu'elles font, c'est-à-dire finalement de gérer l'activité de façon plus rationnelle qu'une gestion sans évaluation de l'impact. Alors, soulignons toutefois que le contenu et les modalités de cette rationalité, qui ont été qualifiées en leur temps par Weber d'instrumental ou en finalité rationnelle, sont bien sûr en contradiction et en décalage avec la rationalité en valeur qui guide en grande partie l'action des organisations de l'économie sociale et solidaire et qui se traduit par la promotion d'un certain nombre de valeurs qu'elles portent. Une autre contradiction doit également être soulignée et elle correspond à la dichotomie entre la singularité des activités à but non lucratif, mais aussi le besoin d'un autre côté qui est induit par le déploiement de l'évaluation de l'impact social, un besoin d'uniformisation dans le déploiement de la mesure d'impact. Alors, venons-en à présent aux outils à proprement parler qui sont mobilisés dans ce processus rationnel. Les récents travaux ont montré que le déploiement de l'évaluation d'impact était davantage appuyé sur une idée d'une bonne pratique plutôt que sur l'idée qu'il existerait un outil d'évaluation standard. En effet, et vous pouvez le constater dans le petit document Ville Rouge qu'on vous a fait passer, les outils sont extrêmement nombreux. Plus de 150 méthodes et de bonnes pratiques ont été répertoriées à ce jour par une plateforme en ligne qui s'appelle Trazi. Et un article récent a d'ailleurs recensé 76 modèles d'évaluation de l'impact. Et je vous invite à vous référer au petit document pour avoir connaissance des principaux outils et je pense que nous y ferons allusion également dans le cadre des retours d'expérience. Alors, soulignons toutefois la bonne place qui est occupée dans le cadre de ces outils par la modélisation de l'activité qu'on appelle la théorie du changement et qui, elle aussi, est un processus bien rationnel qui conduit les acteurs à s'inscrire dans un modèle ou dans un cadre logique et à reconstituer un raisonnement qui va être linéaire et causal entre les ressources qui sont mobilisées pour réaliser les activités, la réalisation qui va être mesurée en volume et en valeur des effets bénéfiques et des résultats qui constituent les changements qui sont générés par la conduite de ces activités. Alors on le voit, ce type de raisonnement laisse totalement de côté le caractère systémique de la création de valeur des organisations de l'ESS, qui fait d'ailleurs l'objet depuis quelques mois de nouveaux travaux qui sont pilotés par la Fonda sur ce point-là. Signalons enfin que les outils les plus sophistiqués conduisent à s'assurer de la causalité de l'impact, c'est-à-dire à vérifier que les résultats ou les effets qui sont observés par les acteurs sont bien induits par l'activité en corrigeant les effets d'intervention de facteurs extérieurs ou simultanés. Donc c'est le fameux phénomène d'attribution. Le résultat qui est alors obtenu est qualifié d'impact net, qui recouvre la part des effets qui sont attribués directement au projet ou à l'activité. Et l'application de ces outils n'est une fois de plus pas neutre. Alors cette pluralité d'outils n'a donc pas donné raison à l'approche taille unique qui a fait l'objet de débats pendant un certain nombre d'années et qui consistait à appliquer sans distinction un ensemble d'indicateurs prédéfinis pour toutes les organisations, indépendamment de leur taille, de leur secteur, du pays et de leur mécanisme de gouvernance. Donc, malgré l'existence de classifications, je vous en ai souligné une dans le petit document fil rouge, celle qui est la plus largement répandue et qui permet de distinguer les outils en croisant deux dimensions. La première est liée à leur finalité, la finalité de la démarche, est-elle interne ou externe? Et la deuxième dimension est liée à la nature des indicateurs qui sont mobilisés. Sont-ils multicritères ou au contraire plus tournés sur une évaluation monocritère, à l'instar des approches monétarisées qui en sont l'ultime version? Alors, cette diversité, elle sous-tend un certain flou, forcément, et elle amène un certain nombre de difficultés des acteurs à faire un choix entre les différents outils existants. Alors, les retours d'expérience permettront justement de clarifier un petit peu plus ces premiers choix. Enfin, Isabelle, je souhaiterais... Oui.
Vas-y, si tu termines, c'est très bien, mais je voulais dire qu'il était 18h30 passé.
Je voulais juste terminer pour faire le lien avec nos invités en précisant quelques éléments clés de l'écosystème qui a effectivement nourri le développement de cette grande palette d'outils. Je signale juste que le thème de l'évaluation d'impact fait l'objet de très peu de recherches à proprement parler. Dans le cadre français, par exemple, on note ces dernières années deux articles importants et deux thèses qui ont été récemment soutenues. L'essentiel de la documentation est donc produit par des acteurs publics et privés, mais s'intéresse davantage au plan professionnel. Alors, parmi les acteurs clés, je voudrais juste souligner quand même l'agence Avis, qui aujourd'hui propose une plateforme de ressources extrêmement riche. Il faut également citer l'Institut de l'innovation et de l'entrepreneuriat social de l'ESSEC, qui a également participé à l'élaboration de guides, et en particulier la traduction du guide sur le SROI, le retour social, le SROI. Et enfin, je voudrais signaler aussi la présence des cabinets de conseil tels que KPMG, pour rester sur les agences et les instituts plus spécifiques, qui ont développé ces dernières années un baromètre de la mesure d'impact pour faire un petit état des lieux sur l'évolution des pratiques. Enfin, j'aurais vraiment terminé en signalant la toute dernière initiative, donc cette année, de l'UDES, qui a lancé en juin un outil d'initiation à la mesure d'impact. Et son intérêt, c'est effectivement de proposer un référentiel d'indicateurs qui est disponible pour toutes les structures en ligne et en accès libre et qui permet de valoriser l'impact. Alors, comme vous le voyez, le fait de mesurer l'impact pour les structures de l'ESS pose de multiples questions et présage, je l'espère, de débats prometteurs. Donc, je m'arrête ici et je laisse la parole à OL pour vous présenter nos grands témoins qui ont accepté de partager leur expérience avec vous ce soir.